Bonjour à tous. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont survécu au changement d'heure, en espérant que ça soit le dernier. Je vous amène aussi les salutations de Sarah. On a un virus qui s'appelle la gastro, qui aime bien notre domicile, donc vous ne la verrez pas ce matin, et je ne vous ferai pas la bise ce matin non plus. Donc, comme l'a dit Jonathan, on continue notre mini-série sur Pâques. Et la semaine dernière, Jonathan nous a parlé de l'humiliation de Jésus. Lui, le roi des rois, seigneur des seigneurs, Dieu qui s'abaisse jusqu'à nous, renonce à tout, à sa gloire céleste, pour une seule raison. Laquelle ? Parce qu'il t'aime, juste pour ça. Parce qu'il savait que sans lui, on n'aurait aucune solution. On n'aurait pas d'avenir. Il savait que sans lui, on n'arriverait pas à vaincre cette épidémie dans le monde qui s'appelle le péché. La Bible nous dit, dans Romains 6, 23, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Elle nous dit également que nous ne pouvons rien faire pour nous en sortir. On a tous péché. Parfois des choses graves, parfois des choses qui pour nous seraient anodines, juste une mauvaise pensée. Ben, tout ça suffit pour nous condamner. On ne veut pas pécher, on doit tendre à ça. Mais force est de constater qu'on n'y arrive pas. En tout cas, moi, je n'y arrive pas. Et la Bible nous précise dans Éphésiens 2, 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Donc, ce n'est pas par ce que tu feras, afin que personne ne puisse se vanter. C'est par la grâce, mes amis, par pure grâce. C'est un cadeau. Tu es gracié. Et le jugement de mort qui est sur toi a été porté et pris par quelqu'un d'autre. Et c'est la suite du début du verset, c'est la suite du verset que nous avons vu tout à l'heure. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais... Et heureusement qu'il y a un mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il fallait un sacrifice parfait. Il fallait un agneau parfait, sans tache, sans péché. Et c'est Jésus qui a vécu un véritable supplice à ta place. Il l'a fait pour toi personnellement. Il l'a fait pour l'Église qu'il aime tant. Il s'est donné pour elle. Alors l'Église, ce n'est pas un bâtiment, je le dis souvent, ni des religieux ou des habitués du dimanche matin. Non, l'Église est composée de disciples de Jésus, de gens imparfaits, comme moi, peut-être pas vous, mais en tout cas comme moi, et qui ont compris qu'ils ont besoin de lui, de Jésus, car auparavant ils étaient condamnés. Le fait que tu sois assis là ce matin ne te met pas à l'abri de la condamnation. Il faut que tu sois disciple de Christ et être au bénéfice de ce cadeau incroyable. En préparant ça, je me suis rendu compte qu'on est en fait un peu habitué à la croix. Et j'oserais même dire qu'on est un peu blasé. À tel point qu'on a juste une vague idée de ce qui s'est passé avant. Et je pense... qu'on sous-estime ce que Jésus a vécu. Il était Dieu, et il est Dieu, mais c'est dans une condition d'humain qu'il a vécu ça. Ce matin, comme nous l'avons vu avec Jonathan, dans Jean 18, 28, et jusqu'à 19, 16, merci Jonathan d'avoir lu ça, parce que sinon on aurait pour 2 heures de prédication. Nous allons voir ce qui s'est passé entre le moment où Jésus a été trahi jusqu'au chemin qui le mène à la croix. On va reprendre cette histoire, vous l'avez vu dans l'épître de Jean, enfin dans l'évangile de Jean, pardon. Et en fait, j'ai repris ces événements dans les 4 évangiles, afin de laisser de côté le moins de choses possible. On n'a pas le temps de tous les détails ce matin. Et j'ai essayé de reprendre le déroulement de ce qui s'est passé. Raconté par des témoins oculaires. C'est horrible. Le but de ce matin n'est pas de te choquer, bien que les textes soient difficiles. Le but est qu'on se rende compte de l'amour incroyable que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je vais vous raconter ça. Il y a des choses qui manqueront. Tu les compléteras. Et tu pourras surtout lire les quatre évangiles et tu auras tous les détails. Jésus et les disciples prennent le dernier repas ensemble. Et avant ce texte qu'on a lu, Jésus prie le Père pour ses disciples. Ensuite, il prie pour les futurs croyants. Il prie pour nous tous ici présents. Il prie que nous soyons unis, que nous soyons protégés du mal, que nous lui soyons consacrés. Ils chantent ensemble des psaumes et ensuite ils se rendent au mont des Oliviers. Après ce moment de prière, l'angoisse commence. Jésus annonce à Pierre qu'il va le renier par trois fois. Mais il lui dit qu'il a prié pour lui, afin qu'il ne se décourage pas et qu'il revienne à lui. Et que sa foi ne disparaisse pas, malgré le fait qu'il va le renier. Et tu remarqueras dans les textes, Jésus ne le juge pas. Les disciples et Jésus se rendent dans un endroit appelé Gethsémané. C'est la nuit. Il leur dit qu'il est triste et leur demande de rester éveillés avec lui et prier. Ensuite, il s'éloigne de quelques mètres, se jette le visage contre terre en priant. Et on retrouve cette prière dans Luc 22, 42. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Jésus fait comme priorité la volonté du Père et non la sienne. L'angoisse est telle qu'un ange vient le fortifier. Angoissé, la sueur de Jésus devient comme des caillots de sang qui tombent par terre. Et ce phénomène peut être expliqué. Il s'appelle le phénomène d'hématidrose ou sueur sanglante qui peut survenir lors d'un stress émotif intense, lorsqu'on est en état de choc. Jésus sait exactement ce qui va se passer dans les moindres détails. Il y a de quoi être choqué. Mais nous, on pense aux douleurs physiques, mais plus que les douleurs physiques qui vont s'abattre sur lui, il y a le poids du péché. Il va prendre tout le péché de l'humanité sur lui et être séparé du Père. Lui, le seul qui n'a jamais péché. Après avoir prié, il se relève et voit ses disciples qui font quoi ? Il leur avait demandé de prier, ils dorment. Et ne le soutiennent pas dans la prière. Ils ne saisissent pas l'angoisse de Jésus. Ils ne se rendent pas compte de ce qui va se passer. Judas, qui a trahi Jésus, amène avec lui une cohorte et son tribun, ainsi que des huissiers qui font partie de la police du temple. Une cohorte était composée de 1000 hommes. Mais souvent, ils n'étaient que 600. Peut-être que ce soir-là, ils étaient un peu moins. Peut-être 200. Beaucoup trop, en tout cas, pour arrêter un seul homme. Cela dit, ce seul homme n'était pas n'importe qui. Ça fait 3 ans qu'il rassemble des foules. Il opère des miracles, il fait des prodiges. Il désarçonne, il gêne. Donc, ils envahissent ce jardin avec leurs flambeaux, leurs lanternes et leurs armes. Ce ne sont pas eux qui arrêtent Jésus. C'est lui qui fait le premier pas. La situation dégénère. Simon-Pierre sort une épée, frappe un des hommes présents, lui coupant l'oreille. J'ai toujours pensé pourquoi lui couper l'oreille, c'est raté en fait. Jésus lui demande de se calmer, guérit l'oreille de cet homme. Elle lui rappelle que s'il le voulait, il pouvait avoir immédiatement 12 légions d'anges, donc 12 fois 6 000 anges, 72 000 anges, comme ça. Mais que ça poserait un problème de taille. Et Jésus le dit dans Matthieu 26, 54, « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi ?» C'est ce que Jésus dit. Je peux le faire, mais si je le fais, il y aura un problème. Après toute cette confusion, Marc précise, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous. Il y avait de quoi avoir peur. Hein. Jésus n'a plus d'amis ni de disciples autour de lui. Il est seul, entouré par des centaines d'hommes qui viennent l'arrêter. On saisit Jésus, on l'attache, on l'emmène d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe qui était le souverain sacrificateur, l'homme le religieux le plus puissant et le plus influent de l'époque. Pierre qui suivait Jésus de loin se retrouve assis autour d'un feu et nie trois fois connaître Jésus. Comme Jésus l'avait dit, le coq chante, juste après. Quand ça arrive, Jésus se retourne vers Pierre. Comme pour dire, je t'avais dit, Pierre. Pierre se rappelle, se retire et éclate en pleurs. Ensuite, on envoie Jésus devant le Sanhédrin et Caïphe, qui était, lui, le souverain sacrificateur reconnu par les Romains. On cherche un faux témoignage le permettant de le condamner. C'est compliqué parce qu'il n'a pas commis d'erreur. Comment le condamner ? On l'interroge, on l'agresse verbalement, on ment sur lui, on se moque de lui. Jusqu'à ce qu'on lui demande « Est-ce que tu es le Messie ?» Et Jésus de répondre « Oui ». Le grand prêtre, en entendant ça, déchire ses vêtements et le condamne à mort. Voilà, pour les Juifs, vu qu'ils ne le reconnaissent pas, c'est un blasphème suffisant pour le condamner à mort. Aveuglé par la haine, il lui donne des coups de poing, lui met un voile sur le visage, et quand il le frappe, ils lui disent « Devine qui c'est ?» Il lui crache dessus. Même les serviteurs lui donnent des gifles et le frappent. Il fait froid pendant cette nuit. Des brasiers sont allumés pour se réchauffer. Tôt le matin, épuisé par une nuit sans sommeil, battu et meurtri. Certainement le visage marqué par les coups et tuméfié. Déshydraté, on emmène Jésus auprès des autorités de l'époque, les Romains. Pendant ce temps-là, Judas qui a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, rappelez-vous, 30 pièces d'argent, est désemparé, il se sait condamné. Il essaie de rapporter l'argent en disant que Jésus est innocent. Rien n'y fait, c'est trop tard. Il jette les pièces dans le temple, et dans le temple ils disent, on ne peut pas garder ces pièces, c'est des pièces couvertes de sang. On va utiliser cet argent pour acheter le champ du potier, comme ça on pourra enterrer les étrangers sur ce champ. On revient à Pilate. Pilate interroge Jésus, lui trouve aucun mal, il essaie de s'en débarrasser. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie la responsabilité au roi Hérode qui était dans les parages, puis c'était la Pâque juive, il était à Jérusalem. Hérode est tout content de voir Jésus. Il en avait entendu parler, puis en fait il voulait voir des miracles. Hérode, Antipas, c'était ce même fou qui avait fait décapiter Jean-Baptiste et qui avait servi sa tête sur un plateau. Il lui pose plein de questions, mais Jésus ne lui répond rien. Du coup, Hérode, il est un peu fâché, et ceux qui étaient présents se moquent de lui. Ils lui mettent un habit magnifique pour l'humilier. Jésus est déjà bien marqué par les coups. Ils lui mettent cet habit dessus. Et puis Hérode, il ne sait pas quoi faire avec, il le renvoie à Pilate. Il est écrit dans les Écritures qu'en fait, Hérode et Pilate qui se détestaient ce jour-là sont devenus des bons amis. De nouveau devant Pilate. Pilate essaye de voir s'il peut libérer Jésus en proposant de relâcher un prisonnier, comme il était coutume à Pâques. Je ne vais pas vous parler de l'attitude de Pilate. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Pilate. Et Pilate, à un moment donné, il se rend compte qu'il a fait une bêtise. Et il se rend compte qu'il y a quelque chose de différent chez Jésus. Il propose, vu que c'est l'habitude à Pâques, de libérer un prisonnier. Le peuple refuse Jésus, on l'a lu, et demande Barabbas, qui était un meurtrier. Il demande au peuple, mais quel est le mal que Jésus a-t-il fait ? Et la réponse de la foule, c'est quoi ? C'est crucifie-le. Il y a une foule qui est là, devant Jésus et Pilate. Les cris de la foule sont horribles, sont haineux. La pression doit être énorme, aussi pour Pilate, qui craque de peur de perdre son pouvoir, peut-être de peur qu'il y ait aussi une insurrection, qu'il y ait une révolte. Barabbas est libéré et Pilate fait fouetter Jésus. « Rien que les coups de fouet auraient pu tuer Jésus. Le supplice du fouet était comme ceci. On dénudait le torse de la victime, on attachait ses mains à un poteau avant de le frapper avec un fouet à trois lanières, incrustées de morceaux de plomb et d'os. Le ou les légionnaires frappaient de toute leur force, le dos, les épaules, les jambes. On pense aussi qu'on les retournait après. Ces coups de fouet ont lacéré et arraché la peau de Jésus. Du sang devait gicler de tous les côtés. En lambeaux. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails de ce supplice. Le centurion estimant que Jésus pouvait mourir, il fait cesser la flagellation. La loi juive limitait le nombre de coups à 40 moins 1. Enfin, c'était 40. Mais il est peu probable que les Romains en aient tenu compte. Jésus a dû s'effondrer après cela, à moitié évanoui. Au sol, dans son sang, on lui jette dessus un manteau écarlate. On lui donne un roseau, un bâton, pour faire de sceptre, un manteau et un sceptre, comme un roi. Il lui frappe le visage, et comme si ce n'était pas suffisant, on lui tresse une couronne d'épines qu'on lui enfonce dans le cuir chevelu. Le visage déjà défiguré par les coups saigne d'autant plus. Ils lui reprennent le bâton pour lui frapper dessus, sur la tête, pour enfoncer encore plus cette couronne. On lui crache dessus, les coups pleuvent, pendant que d'autres se mettent à genoux en le saluant. Salue le roi des Juifs, et il se moque de lui. Finalement, il lui arrache le manteau, qui avait déjà dû coller aux blessures, lui remettre des vêtements pour qu'il se fasse crucifier. Il ne pouvait pas aller se faire crucifier avec un manteau. C'était les règles. La croix est apportée afin qu'il la porte au lieu de la crucifixion. C'était une manière supplémentaire d'humilier ceux qui allaient se faire exécuter et un avertissement pour tous ceux qui le croisaient ou qui croisaient les crucifiés le long du chemin. En principe, on choisissait aussi le chemin le plus long depuis l'endroit où il a été fouetté jusqu'à la croix. Il devait porter donc sa croix. Les commentateurs pensent qu'il devait porter la poutre horizontale de la croix, certainement 50 kilos ou plus. Le bois rugueux frotte la peau lacérée des muscles des épaules de Jésus. Il n'en peut plus. Il n'a plus de force et n'arrive pas à avancer. Jésus s'effondre plusieurs fois avec la poutre de la croix qui lui tombe dessus. Il n'en peut plus. Il n'arrive plus. Donc ce que font les Romains, ils prennent un passant. On ne va pas parler de ce passant ce matin. Et il porte à sa place. On s'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parle de la crucifixion. Pas uniquement de la résurrection. Lors de cette crucifixion, nous voyons également que Jésus est Dieu, parce qu'on n'a pas brisé ses os, de ses jambes ni des chevilles, pour qu'il meure plus rapidement. Non, il a donné sa vie et n'a pas été prise par la mort. J'ai déjà dit plusieurs fois et je vais préciser cela. Les crucifiés pouvaient rester plusieurs jours sur la croix. Certains, on les hydratait. Il y avait différentes formes de crucifixion. Parfois, on leur mettait une tablette sur laquelle ils pouvaient appuyer leurs fesses. Comme ça, ils pouvaient rester plusieurs semaines sur la croix, jusqu'à en tout cas largement plus d'une semaine. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Cette première partie est déjà terrifiante. Et c'est choquant de voir tout ce que Jésus a enduré. Quelle a été l'attitude de Jésus pendant tout ça? Est-ce qu'il a essayé de se protéger une seule fois? Est-ce qu'il a essayé de se protéger le visage? Les textes ne nous rapportent pas ça. A-t-il menacé ceux qui l'agressaient? Non. Je vous avais fait tout à l'heure, en un claquement de doigts, il pouvait faire venir des milliers d'anges. Mieux que ça, en un claquement de doigts, il aurait pu revêtir un corps céleste, enlever ce corps de douleur. En un claquement de doigts, encore mieux, c'est ce que je pense que moi j'aurais fait. J'aurais mis toute cette bande de gens autour de moi à ma place, dans la même situation, avec les douleurs. Donc pourquoi il a accepté ça? Alors, ou Jésus est complètement fou et avait perdu la tête, ou il t'aime tellement qu'il a accepté d'endurer tout ça, sachant que c'était la seule solution pour que nous nous en sortions. On l'a lu tout à l'heure. Le prix de nos péchés valait pas moins que tout ça. Ça valait pas moins que ça. Jésus s'est substitué à nous pour expier nos péchés, et aussi, il a accompli des prophéties. Ésaïe 53, c'est un texte qui a été écrit 700 années avant la naissance de Jésus. Vous pouvez le prendre dans vos Bibles, mais il va être aussi projeté. À partir du verset 3, « Méprisé et délaissé des hommes », ça a été écrit 700 ans avant. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont de nos douleurs, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort ? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On l'a mis dans son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Et à la fin du verset 12, il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Il y a plus de 300 prophéties sur la première venue de Jésus, plusieurs sur sa mort. Certaines vont dans des détails incroyables. Zacharie 11, 12 à 13. Et ça, c'est des documents qu'on a trouvés dans les manuscrits de la Mère Morte. On n'a pas pu les modifier. Ce n'est pas un truc qui aurait pu être falsifié. C'est factuel. Zacharie 11, 12 à 13, il est écrit « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour moi mon salaire, 30 pièces d'argent. L'Éternel m'a dit « Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. » J'ai donc pris les 30 pièces d'argent, je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Judas qui a trahi Jésus, je ne pense pas qu'il allait se donner de la peine pour accomplir une prophétie. C'est mon avis. Un autre, c'est psaume 22, écrit 1000 ans avant Jésus-Christ. Je ne vous l'ai pas mis là, je vais vous le décrire, ou je vais vous dire. 1000 ans avant la venue de Jésus, le psaume 22, écrit par le roi David, décrit la crucifixion du Messie de manière très détaillée. Les Juifs ne se servaient jamais de la crucifixion pour exécuter un malfaiteur, mais le lapidaient. Ce psaume est une preuve irréfutable de l'inspiration divine, surtout si l'on songe qu'il a été écrit des centaines d'années avant que les Romains inventent et pratiquent ce supplice. Ça n'existait pas quand ça a été écrit. Et alors que la crucifixion est inconnue des Juifs. Donc, tout ça veut dire quoi? Jésus est réellement le Messie, et il a clairement accompli ce qui avait été dit des centaines, voire des milliers d'années avant. Et c'est pour ça qu'on peut affirmer que notre foi, elle n'est pas bâtie sur des hypothèses, mais sur des faits réels. Le voilà en route, Jésus, pour vaincre la mort pour nous. Je souhaite maintenant que nous prenions trois des acteurs de ces événements et qu'on essaie d'en retirer quelques explications, quelques choses, quelques applications qui peuvent nous toucher. Le premier personnage, c'est Judas. Alors tu me diras, mais André, qu'est-ce que tu veux parler d'un traître? Ça ne sert à rien. C'est un imposteur. Alors ce n'est pas du traître ni de l'imposteur que je veux parler. Et en tout cas, je ne veux pas développer ce sujet-là. Je veux te parler du gars qui a fait partie du groupe choisi par Jésus, du gars qui était intime avec lui, qui l'avait entendu parler, qui avait partagé avec lui des joies, des fous rires, des chagrins, des repas, la route. Plus que ça, il avait servi le royaume avec Jésus en proclamant l'évangile. Il avait même guéri des malades au nom de Jésus. Il était présent lors du serment sur la montagne, Judas. Il a vu des prodiges, il a vu des miracles, il a vu l'autorité de Dieu sur les éléments de la nature quand ils étaient dans la barque en pleine tempête. Il a aussi dû être impressionné quand il y a eu la multiplication des pains. Il était aussi là lors de la résurrection de Lazare. Même quand la sœur de Lazare dit à Jésus, « Mais attends Jésus, le corps de Lazare, il sent mauvais, ça fait, je peux dire de bêtises, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. » Ça pue. Et Jésus dit quoi? Dans Jean 11, 44, « Lazare, sors !» en disant au tombeau. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Il a vu ça, Judas. Un truc de fou, quoi. Judas a vécu avec le meilleur leader spirituel de l'histoire de l'humanité, mais ça n'a pas suffi. D'ailleurs, souvent on critique les leaders spirituels ou les pasteurs des églises, mais ce ne sont pas eux qui font de toi un vrai disciple de Jésus. Dieu veut que tu sois intime avec lui. Jésus veut que tu lui ouvres son cœur et c'est une relation cœur à cœur qu'il veut avec toi. Venir à l'église ne fait pas de nous des disciples. Faire de belles prières, qu'elles soient courtes ou longues, ne fait pas de toi un disciple de Jésus. Donner de l'argent à l'église ne sert à rien. Tu ne peux pas acheter le fait d'être disciple. Servir, chanter, copier tous les gestes et phrases que les vrais disciples font, ne font pas de toi un vrai disciple. Pour être un disciple, il ne faut pas faire, il faut être. Il faut être sauvé. Il faut être touché par la grâce de Jésus. Tu remarqueras aussi dans les textes que Jésus a tendu plusieurs fois la perche à Judas. Change d'avis, Judas. Il ne l'a pas fait. Et toi, ce matin, tu t'en es où? Je ne suis pas en train de te comparer à Judas. Mais peut-être le Seigneur te lance une perche aussi ce matin. T'en fais quoi de cette perche? Le deuxième personnage, c'est Pierre. Pierre, c'était un vrai disciple. Je me retrouve dans certains aspects de Pierre. Et ceux qui me connaissent savent que c'est vrai. Impulsif, têtu, un caractère plutôt fonceur, je fais qu'à ma tête. C'était un gars aussi un peu rude. Peut-être un peu bourru, comme les hommes souvent qui travaillent dans la pêche. C'était un pêcheur. Comme Pierre, nous chutons, nous avons des faiblesses. Il voulait changer le cours des événements. Il sort son épée ce soir-là. Il y a tellement de situations dans nos vies où on sort aussi l'épée, alors qu'on sait que les plans du Seigneur sont autrement. On sort aussi l'épée, même si on sait que c'est borderline. C'est vraiment limite, limite ce qu'on est en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben, on doit prendre le temps de réfléchir à ce que Jésus aurait fait à notre place. Lui confier tous les aspects de nos vies. Mon travail, ma carrière professionnelle. Est-ce que je peux glorifier Dieu dans le métier que j'exerce ? Ma relation amoureuse, est-ce qu'elle est en accord avec Dieu ? Est-ce que je lui ai remis mes addictions ? Tous les aspects de notre vie. L'alcool. Peut-être la drogue. Peut-être la pornographie. Peut-être l'argent. Est-ce que je lui ai tout remis ? Il sait que j'ai ces luttes, mais est-ce que je lui ai tout remis ? Est-ce que je lui ai confié ma santé ? Pas forcément pour qu'il me guérisse, il peut, mais pour que je puisse aussi supporter. Est-ce que je lui confie mes joies, mes tristesses, ma famille, mes enfants, mes voisins, mon entourage ? En gros, est-ce que je laisse le Seigneur réellement prendre le contrôle de ma vie ? Est-ce que toi, tu le fais ? Pierre avait des défauts, mais il avait entamé un processus de transformation. La pierre brute qu'était Simon Pierre s'est laissée tailler, s'est laissée polir par Jésus. Il a compris l'humilité. Pierre avait dit à Jésus qu'il le défendrait jusque dans la mort. Mais il n'a pas pu tenir parole. Après, il a tenu parole. Après. Jusque dans la mort, il a été un témoin de Jésus. Et ça lui a coûté la vie. Il l'a renié devant les hommes au pire des moments, le moment où Jésus avait le besoin le plus de soutien. Ce qui est génial pour nous, c'est que Jésus ne l'a pas exclu, il ne l'a pas renié. Et malgré tout ce que tu auras pu faire de faux, Jésus te pardonne. Pourquoi ? Parce que l'amour de Jésus pour toi est inébranlable, indéfectible. Jésus te dit ce matin, je suis avec toi, relève-toi. Si tu as des regrets dans ta vie, c'est bon signe. Si tu sens qu'il y a des choses que tu dois corriger, c'est bon signe. Ça veut dire que tu souhaites plus vivre dans le péché et que le processus de transformation s'est entamé. Par ses erreurs, Pierre a grandi et est devenu un serviteur remarquable de Christ. Il a servi fidèlement Dieu comme Jésus avant lui. On a tous dans la vie des exemples et des gens, je passe un peu à autre chose pour faire une transition. Des gens qu'on prend comme des exemples. Et en principe, on se focalise plutôt sur ceux qui ont de la réussite, sur ceux avec qui tout va bien. Des personnes qu'on regarde puis on se dit « waouh ». On peut prendre le patron de Microsoft, Bill Gates. Alors ça ne te fait peut-être pas rêver, mais imagine comment il a influencé avec l'informatique et l'empire qu'il a créé. Le fondateur d'Apple qui nous a rendus esclaves des smartphones, qui est maintenant décédé, Steve Jobs, c'était aussi quelqu'un qui était extrêmement admiré. Pas parfait, mais admiré. En sport, Roger Federer, célèbre joueur de badminton, de tennis, pardon. Qui fait la fierté de la Suisse depuis bien longtemps. Ces trois personnes, et il y en aurait d'autres, auront marqué l'histoire, en tout cas pendant un certain temps. Et si tu regardes d'où vient leur succès, il vient du travail. Il vient de la discipline de vie. Ils ont focalisé leur existence sur un but à atteindre, sur un objectif. Et j'ai envie de te demander ce matin, quel est l'objectif dans ta vie ? C'est quoi l'objectif dans ta vie ? On a beaucoup parlé de disciples de Jésus. Disciple veut dire suivre un maître, apprendre avec lui et vouloir devenir comme lui. Du coup, on a vu quoi au début ? On a vu celui qui s'est planté, Judas. Celui qui est devenu un vrai disciple de Jésus, Pierre, avec des défauts, mais qui est devenu une référence par la suite, et c'est tout naturellement pour terminer qu'on va se pencher sur celui qui a coupé l'histoire de l'humanité en deux. Il y a eu un avant et un après. Le plus grand homme qui ait foulé le sol de la terre, Jésus, fils de Dieu. Homme de douleur. Il n'est pas venu n'importe comment sur la terre. Il n'a pas une vie décousue où il s'est dit « Maintenant, je vais faire un petit peu de ceci, puis maintenant, je vais faire un petit peu de cela, puis maintenant, je vais essayer ceci ou je vais essayer cela parce que je vais quand même profiter de la vie, quoi. » Je ne dis pas qu'il n'a pas profité de la vie. Il a eu des moments certainement extraordinaires. Mais il s'est concentré uniquement sur la mission qu'il devait accomplir. S'il y a un exemple que nous devons suivre, c'est certainement celui de Jésus, parce que c'est l'exemple parfait. Quelles ont été les priorités dans la vie de Jésus? Et quelles ont été ses habitudes? Et qu'est-ce qu'on pourrait y reprendre pour nos vies? Il y en aurait plein. Mais j'en ai choisi uniquement trois. Et la première, c'est être parfait. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est la seule chose qu'on n'arrivera pas à atteindre. Non, le premier point, c'est soit se concentrer et focaliser sur les choses du royaume. Soit concentré et focalisé sur les choses du royaume. Rappelle-toi, si tu veux être disciple de Jésus, tu veux ressembler au maître. Vous vous souvenez de Jésus, gamin, dans Luc 2, ou jeune adolescent? Ses parents désespérés le cherchent partout. Ils ont quitté Jérusalem, mais ils l'ont laissé là-bas. Je me rappelle de mon père, parfois, qui m'oubliait dans la propriété des camps au Portugal. Je voyais la voiture qui partait, et puis moi, je restais sur la propriété. Mais il partait qu'à 8 km. Et il revenait après quand il voyait qu'il n'y avait pas de bruit dans la voiture. Mais là, Marie-Joseph, ça fait 3 jours qu'ils le cherchent. À mon avis, ils doivent bien flipper. Vous savez où ils le retrouvent? Il le retrouve dans le temple. Je pense que Marie a dû lui passer mais un sacré savon à Jésus. Luc 2, 49 dit ceci. C'est la réponse de Jésus. « Pourquoi me cherchez-vous ? Ou cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Déjà enfant, Jésus avait une conscience parfaite de la mission et de ce qu'il était venu faire sur terre à 12 ans. À 12 ans, mes amis, et jusqu'à sa mort, 21 ans plus tard, il était complètement centré sur sa mission. Et pour nous, ça veut dire quoi, être focalisé sur les choses du royaume? Et comment est-ce qu'on peut le faire? Je te propose de creuser la parole, de comprendre ce que le Seigneur veut pour ta vie, de te laisser façonner par Christ, étudier, méditer, en tirer des applications concrètes pour ta vie. Fais de la Bible ta référence, fais de la Bible ton autorité. On appelle ça grandir spirituellement. Cet après-midi, lors de l'Assemblée Générale, nous allons parler de la vision que nous voulons pour notre Église, de ce que nous voulons faire, de ce qu'on aspire. C'est juste quelques idées. La première chose que je peux déjà vous dire, c'est que nous voulons que chaque personne trouve sa place dans cette Église. Et chaque personne puisse s'épanouir personnellement et dans sa marche avec Jésus. Que chacun d'entre nous trouve notre place. Et nous voulons qu'on soit une église qui brûle pour Dieu. Et si on veut qu'on soit une église qui brûle pour Dieu, on doit savoir ce que Dieu attend de nous. Et c'est dans la parole. Et c'est en partageant ensemble. Sois concentré et focalisé sur les choses du royaume de Dieu. La deuxième chose, c'est aime ton prochain. La Bible nous a démontré, ce texte nous a démontré que Jésus nous a aimés jusqu'à l'extrême. Jésus a dit dans Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Pratiquement pour nous, on a simplement besoin de faire et d'essayer de copier ce que Jésus a fait, c'est-à-dire... Il a guéri des malades. Alors, je ne suis pas médecin. mais je peux aller visiter quelqu'un à l'hôpital. Je peux prier pour lui, je peux prier pour sa guérison. Je peux le visiter. Il a donné à manger, il a pris du temps pour discuter, pour expliquer. Il n'a pas fait de différence de race, d'origine. Il n'a pas fait de différence entre des migrants ou des Suisses, ou entre des frontaliers et des Genevois, ou entre des Noirs et des Blancs, etc., etc., etc. Il n'a pas fait de différence entre riches et pauvres. Il n'a pas fait de différence en aimant les gens entre une prostituée et un médecin, par exemple. Il les a aimés et il est allé vers eux de la même manière. C'est ce qu'il attend de nous. Il a été le meilleur ami, celui qui ne change jamais. Il ne s'est pas révolté contre ceux qui ont fait du mal. Il a pardonné. Il est mort pour nous, a payé le prix pour nous pardonner. Autre chose aussi, Jésus n'est pas resté seul dans son coin, comme on peut peut-être le faire des fois. Non, il a été vers les autres. Et je me rappelle de Marcos à Frater Pâques, il y a 3-4 ans, voire plus maintenant, les années passent. Il répondait à quelqu'un qui lui disait « Mais prouvez-moi que Dieu existe. » C'était à la gare. Et il lui a dit « Regardez toutes ces personnes bénévoles qui sont là autour. Elles font tout ça parce que Dieu vit en elles. Voilà la preuve que Dieu existe. C'est toi la preuve que Dieu existe. Et c'est toi qui dois le transmettre par ta vie. Aimer son prochain, c'est difficile, parce que c'est renoncer à soi-même. Purée, celui-là, j'ai pas envie de le voir. Il m'énerve. Je n'ai pas envie de passer du temps avec. Il n'a pas fait de différence. Aimer son prochain, c'est renoncer à soi-même, à nos vies, et vivre pour Christ. Et le Saint-Esprit va t'y aider. Si tu veux, le Saint-Esprit va t'y aider. Si tu ne veux pas, il ne va pas t'aider. Le troisième point, donc le premier, sois concentré, focalisé sur les choses du royaume de Dieu. Le deuxième, c'est aime ton prochain. Et le troisième, c'est dynamise ta vie de prière. Jésus était Dieu. Et malgré ça, il cherchait constamment la volonté du Père. On le voit plein de fois où Jésus se retire pour prier, passe des heures, voire des nuits entières. Avant de choisir les disciples, il a passé une nuit entière à prier. Et ce n'était pas la seule. Prier, ce n'est pas des phrases toutes faites, des choses qu'on récite sans fin. Non, Jésus te parle de la prière personnelle, soit celle où tu dialogues ce que Judas n'a pas fait, cœur à cœur avec le Maître. Il nous parle aussi de l'importance de la prière communautaire, comme celle que nous avons dans des groupes et que nous avons ici tous les lundis soirs. On a parlé il y a quelque temps de Billy Graham qui a rejoint son Seigneur et qui est en face de Jésus aujourd'hui. Billy disait ceci, « Mets-toi à genoux et prie jusqu'à ce que toi et Dieu soyez devenus des amis intimes. » La paix et la joie envahira ta vie lorsque tu auras pris cette habitude quotidienne de la prière. Et écoute bien ça. S'il y a un manque de puissance dans ta vie, si tu sens un manque dans ta vie, c'est peut-être que tu as négligé la préparation de ta vie en négligeant la prière. S'il y a un manque de puissance dans ta vie, c'est peut-être que tu as négligé la préparation de ta vie. Et tu ne peux pas bien préparer ta vie sans la prière. Et je vous laisse ces trois points pour ces prochains jours, prochaines semaines. Pour moi, ça sera pour, j'espère, le plus longtemps possible. Sois concentré, focalisé sur les choses du royaume. Aime ton prochain. Dynamise ta vie de prière si tu veux ressembler au Maître. Jésus nous a démontré par son sacrifice combien Dieu est le péché, combien il déteste le péché. Sinon, il n'aurait pas fait souffrir autant. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de mourir. Et on revient au début. Si Jésus est mort, c'est qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin vers la perdition, celui qu'a emprunté Judas, celui que tu empruntes peut-être aujourd'hui, celui qu'a emprunté Judas comme des millions d'hommes et de femmes aujourd'hui. Un chemin chaotique, sans repère, sans tranquillité, sans assurance. Un chemin où tu as peur de la mort. Mais il y a un deuxième chemin. C'est le chemin vers la victoire. Ce chemin-là, il était barré par nos fautes. Il n'avait pas accès à ce chemin. Mais Jésus s'est chargé de tout dans son sacrifice. Il s'est chargé de tout sur ce chemin de croix. Vous vous souvenez, on l'a laissé ensanglanté par terre, écrasé certainement par le poteau de la croix, parce qu'il n'arrivait plus, lacéré de toutes parts, une couronne d'épines enfoncée dans son crâne, déshydraté, fatigué, il n'avait pas dormi, il s'était fait frapper de partout. Tout ça pourquoi ? Pour nous ouvrir un chemin de victoire. Il nous a ouvert la voie du ciel, il nous a réconciliés avec le Père. Pour l'emprunter, il suffit juste que tu reconnaisses que tu es pécheur et que tu as besoin du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on appelle la folie de la croix. Jean 14, 6 dit, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » Il n'a pas dit « il y a plusieurs chemins ». Il n'a pas dit « tu peux aller dans n'importe quelle religion ». Sinon, tout ce qu'on vient de voir ce matin, tout ce qui a été prouvé historiquement aussi, aurait été ridicule, mais ridicule. Si tu peux trouver Dieu par un autre moyen, Jésus ment là. Et ça veut dire que tu nies aussi l'existence de Jésus. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si ce n'était pas le cas, Jésus n'aurait pas subi toutes ces horreurs. Je te propose d'emprunter ce chemin de victoire et de vivre cette relation cœur à cœur avec ton Créateur. Si Dieu t'a interpellé ce matin, que tu sois chrétien ou que tu découvres ça, n'hésite pas à venir nous voir pour en parler, pour qu'on puisse prier avec toi et qu'on puisse te montrer les premières étapes pour suivre ce chemin. Je vais demander au groupe de louanges de s'approcher. Mais avant qu'ils chantent un chant, je vous propose un moment de silence et de réflexion sur ce que nous venons de partager. Jésus, cet homme de douleur, fils de Dieu qui est venu pour nous ouvrir les cieux. En te rappelant aussi ces trois points de ce chemin de victoire, je vous propose voilà quelques instants de silence et de réflexion. Que le Seigneur vous bénisse.